Il y a encore quelques problèmes. Bon, on commence. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans nos cycles de conférences, depuis 10 ans que nous les organisons, nous avons périodiquement demandé à des scientifiques de venir nous faire des réflexions sur la science, sur la responsabilité du savant. Et je crois que c'est particulièrement nécessaire de le faire parce que nous avons un peu tendance au CERN à nous prendre pour des gens extraordinaires qui font toutes des choses théoriques pas dangereuses du tout, qui font une collaboration européenne exceptionnelle. Alors, toujours pris par ces belles idées, on a un petit peu trop tendance peut-être à s'en satisfaire et ne pas se poser des questions plus profondes. Et je crois que c'est pour justement aller un peu plus loin qu'il est utile d'avoir des conférenciers comme M. Grothendieck que nous avons ce soir, et je lui passe immédiatement la parole.
Merci. On vous laisse comme ça, hein? Et je parle. Voilà. Je suis très content d'avoir l'occasion de parler au CERN. En fait, je pense que pour beaucoup de personnes dont moi j'étais jusqu'à nouvel ordre, le CERN est une des quelques citadelles, si on peut dire, d'une certaine science, d'une science de pointe en fait, la recherche nucléaire, pensais-je jusqu'à aujourd'hui, on m'a détrompé, il paraît que au CERN, le Centre européen de recherche nucléaire, on ne fait pas de recherche nucléaire. Mais en fait, quoi qu'il en soit, je crois que dans l'esprit de beaucoup de gens, le CERN en fait. Et la recherche nucléaire est indissolublement associée pour, je crois, également beaucoup de gens, à la recherche militaire, aux bombes A et H, et aussi à une chose dont les inconvénients commence seulement à apparaître, la prolifération des centrales nucléaires. En fait, disons, l'inquiétude qu'a provoqué depuis la fin de la dernière guerre mondiale, la recherche nucléaire a été en train de s'effacer un petit peu à mesure que, disons, l'explosion de la bombe A à Hiroshima et Nagasaki passait dans le passé. Bien entendu, il y a eu l'accumulation d'armes destructrices du type A et H, qui maintenait pas mal de personnes dans l'inquiétude. Mais un phénomène plus récent, c'est qu'on s'aperçoit que la prolifération des centrales nucléaires, qui prétend répondre aux besoins croissants de la société industrielle en énergie, qu'on s'est aperçu que cette prolifération avait un certain nombre d'inconvénients, pour dire un euphémisme extrêmement sérieux, que ça posait des problèmes très graves. Alors, je crois que cette situation, qu'une recherche de pointe soit associée à une véritable menace à la survie de l'humanité, une menace même à la survie de la vie tout court sur la planète, ce n'est pas une situation exceptionnelle, c'est une situation qui a des règles. En fait, depuis 1 ou 2 ans que moi-même, je commence à me poser des questions à ce sujet, eh bien, je me suis aperçu que finalement, dans chacune des grandes questions qui actuellement menacent la survie de l'espèce humaine, eh bien, ces questions ne se poseraient pas sous la forme actuelle. La menace à la survie ne se poserait pas si l'état de notre science était celle de l'an 1900, par exemple. Je ne vais pas dire par là que la seule cause de tous ces maux, de tous ces dangers, ce soit la science. Bien entendu, il y a une conjonction de plusieurs choses, mais la science, l'état actuel de la recherche scientifique, joue certainement un rôle important. Alors, je pourrais peut-être dire quelques mots personnels. Moi-même, je suis un mathématicien. J'ai consacré la plus grande partie de mon existence à faire de la recherche mathématique. Et en fait, en ce qui concerne la recherche mathématique, celle que j'ai faite et celle qu'ont faite les collègues avec lesquels j'ai été en contact semblait très éloigné de toute espèce d'application pratique. Et pour cette raison, je me sentais pendant longtemps particulièrement peu enclin à me poser des questions sur les tenants aboutissants, en particulier sur l'impact social de cette recherche scientifique. Et ce n'est qu'à une date assez récente, depuis 2 ans, que j'ai commencé, comme ça progressivement, à me poser des questions à ce sujet. Et que je suis arrivé à une position depuis un an et demi. En fait, j'ai abandonné toute espèce de recherche scientifique. Je pense qu'à l'avenir, je n'en ferai que le strict nécessaire pour pouvoir subvenir à ma subsistance, puisque, jusqu'à nouvel ordre, je n'ai pas d'autre métier que celui de mathématicien. Alors, je sais bien que ce genre de questions, je ne suis pas le seul à me les être posées. En fait, depuis une année ou deux, et même depuis les derniers mois, de plus en plus de personnes se posent des questions clés à ce sujet. Je suis tout à fait persuadé qu'au CERN également, beaucoup de scientifiques et de techniciens commencent à se poser. En fait, j'en ai rencontré. Et peut-être que je peux ajouter que moi-même et d'autres connaissons des personnes au CERN qui, par exemple, se font des idées extrêmement sérieuses au sujet des applications dites pacifiques de l'énergie nucléaire, mais qui n'osent pas les exprimer publiquement parce qu'ils craindraient de perdre leur place ici. Et ceci n'est pas le cas seulement, bien entendu, au CERN. Je ne vais pas faire ici une critique uniquement pour... Je ne vais pas dire qu'il s'agisse ici d'une atmosphère qui serait spéciale au CERN. Je crois que c'est une atmosphère qui prévaut dans la plupart des organismes universitaires ou de recherche en France et en Europe, et même dans une certaine mesure aux États-Unis, où les personnes qui prennent le risque de s'exprimer ouvertement au sujet de leur réserve, même sur un terrain strictement scientifique, concernant certains développements scientifiques, sont quand même une infime minorité. Alors, donc, depuis un an ou deux, je me pose des questions. Je ne me les pose pas seulement à moi-même, je les pose aussi à des collègues. Et tout particulièrement depuis plusieurs mois, 6 mois peut-être, je prends toute occasion de rencontrer des scientifiques, que ce soit dans des discussions publiques comme celle-ci ou en privé, pour soulever ces questions. En particulier, pourquoi faisons-nous la recherche scientifique? Une question qui est pratiquement la même, peut-être, à longue échéance du moins, que la question « Allons-nous continuer la recherche scientifique ?» Et la chose extraordinaire, c'est de voir à quel point mes collègues sont incapables de répondre à cette question. En fait, pour la plupart d'entre eux, simplement, cette question est si étrange, si extraordinaire, qu'ils se refusent même de l'envisager. En tout cas, ils hésitent énormément à donner une réponse, quelle qu'elle soit. Alors, lorsqu'on parvient à arracher une réponse dans des discussions publiques ou privées, généralement, ce qu'on entend, c'est par ordre de fréquence de réponse, la recherche scientifique, j'en fais parce que ça me fait bien plaisir, parce que j'y trouve certaines satisfactions intellectuelles. Et puis parfois, les gens disent, eh bien, je fais la recherche scientifique parce qu'il faut bien vivre, parce que je suis payé pour ça. Eh bien, en ce qui concerne la première motivation, je peux dire que c'était ma motivation maîtresse pendant ma vie de chercheur. Effectivement, la recherche scientifique me faisait bien plaisir et je me posais guère de questions au-delà. En fait, si ça me faisait plaisir, c'était en grande partie parce que le consensus social me disait que c'est une activité noble, une activité positive, une activité qui valait la peine d'être entreprise. Sans du tout, d'ailleurs, détailler en quoi elle était positive, en quoi elle était noble. En tout cas, l'expérience directe, évidemment, me disait que ensemble avec mes collègues, nous construisons quelque chose, nous construisons un certain édifice. Il y avait un sentiment de progression qui donnait un certain sentiment d'achievement, de plénitude, disons, et en même temps, une certaine fascination dans les problèmes qui se posaient. Mais tout ceci, finalement, ne résout pas la question à quoi sert socialement la recherche scientifique. Parce que si elle n'avait comme but que de procurer du plaisir, disons, à une poignée de mathématiciens ou d'autres scientifiques, sans doute la société hésiterait à investir des fonds considérables en mathématiques qui ne sont pas très considérables, mais dans les autres sciences, elles peuvent l'être. Et sans doute la société hésiterait aussi à payer tribut à ce type d'activité, tandis qu'elle est assez muette sur des activités peut-être qui demandent autant d'efforts, mais d'un autre type, comme de jouer aux billes ou des choses de ce goût-là. On peut développer à l'extrême certaines facultés techniques, qu'elles soient intellectuelles ou manuelles ou autres. Mais pourquoi y a-t-il cette valorisation de la recherche scientifique? Je crois que c'est une question qui mérite d'être posée. Alors, en parlant avec beaucoup de mes collègues, je me suis aperçu au cours de l'année dernière qu'en fait, ce plaisir que les scientifiques sont censés retirer de l'exercice de leur profession chérie, c'est un plaisir qui n'est pas un plaisir pour tout le monde. En fait, je me suis aperçu avec stupéfaction qu'en fait, pour la plupart des scientifiques, la recherche scientifique était ressentie comme une contrainte, comme une servitude. En fait, la recherche scientifique, c'est une question de vie ou de mort en tant que membre considéré de la société, disons, de la communauté scientifique. La recherche scientifique est un impératif pour obtenir un boulot, une fois qu'on s'est engagé dans cette voie sans savoir très bien à quoi elle correspondait. Une fois qu'on a son boulot, c'est un impératif pour arriver à monter en grade. Une fois qu'on est monté en grade, à supposer même qu'on soit arrivé jusqu'au grade supérieur, c'est un impératif pour être considéré comme étant encore dans la course. On s'attend à ce que vous produisiez. La production scientifique, comme n'importe quel autre type de production dans la civilisation ambiante, est considéré comme un impératif en soi. Et dans tout ceci, c'est ça la chose remarquable, finalement, le contenu de la recherche passe entièrement au second plan. Il s'agit de produire un certain nombre de papiers. Dans le cas extrême, on va mesurer la productivité scientifique au nombre de pages qui ont été publiées. Sous ces conditions, certainement, pour un grand nombre de scientifiques, certainement pour l'écrasante majorité, à l'exception véritablement de quelques-uns comme ça qui ont la chance d'avoir, disons, des dons exceptionnels ou d'être, disons, dans une position sociale et une disposition d'esprit qui leur permettent de s'affranchir de ce sentiment de contrainte, pour la plupart, la recherche scientifique devient une véritable contrainte qui tue le plaisir qu'on peut avoir à l'effectuer. Mais c'est une chose que j'ai découverte avec stupéfaction parce qu'on n'en parle pas, parce que entre mes élèves et moi, sans même que je m'en aperçoive, je pensais qu'il y avait des relations, disons, spontanées et égalitaires. En fait, c'était une illusion dans laquelle j'étais enfermé. Il y avait relations hiérarchiques et les mathématiciens qui étaient mes élèves ou qui se considéraient comme moins bien situés que moi et qui ressentaient, disons, une aliénation dans leur travail, eh bien, ils n'auraient absolument pas eu idée de m'en parler avant que, de mon propre mouvement, je quitte le ghetto scientifique dans lequel j'étais enfermé et j'essayais de parler avec des gens qui n'étaient pas de mon milieu, ce milieu de savants ésotériques qui faisaient de la haute mathématique. Alors, pour illustrer ce point, j'aimerais ici donner un détail très concret. J'ai été, il y a 2 semaines, j'ai fait un tour en Bretagne. J'ai eu l'occasion, entre autres, de passer à Nantes où j'ai vu des amis, où j'ai parlé dans une maison des jeunes de la culture sur le genre de problème que nous abordons aujourd'hui. Et j'y étais le lundi. Comme mes collègues de l'Université de Nantes étaient avertis de ma venue, ils avaient demandé, in extremis, que je vienne le lendemain après-midi pour faire une causerie sur des sujets mathématiques avec eux. Or, il s'est trouvé que le jour même de ma venue, un des mathématiciens de Nantes, M. Molinaro, s'est suicidé. Et donc, à cause de cet incident malheureux, la causerie mathématique qui était prévue a été annulée. Et au lieu de ceci, bon, j'ai contacté un certain nombre de collègues là, j'ai demandé s'il était possible qu'on se réunisse pour parler un peu de la vie mathématique et, disons, la vie à l'intérieur du département de maths à l'université et pour également parler un peu de ce suicide. Et il y a eu une séance extrêmement révélatrice du malaise général cet après-midi à Nantes, où manifestement, tout le monde qui était présent, avec une exception, je dirais, sentait bien clairement que ce suicide était lié de très très près au genre de choses comme précisément on discutait la veille au soir à la maison des jeunes de la culture. En fait, je donnerai peut-être un ou deux détails. Il s'est trouvé que Molinaro avait deux thésitifs auxquels il faisait faire des thèses, je crois, de troisième cycle. Je crois que ce n'était pas des thèses d'État. Et, bon, ces thèses étaient considérées comme n'étant pas de valeur scientifique suffisante. Elles ont été jugées extrêmement, de façon très sévère par Dudonné, qui est un bon collègue à moi, avec lequel j'ai écrit ensemble un gros traité de géométrie algébrique. Donc, je le connais très bien. C'est un homme qui a un jugement scientifique très sûr, qui est très exigeant vis-à-vis de la qualité d'un travail scientifique. Et alors que ces thèses étaient discutées pour la commission, pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions d'enseignant à l'enseignement supérieur, eh bien, il a saqué ces deux thèses et l'inscription a été refusée. Et ceci, bien entendu, a été ressenti comme une sorte d'affront personnel par Molinaro, qui a déjà eu des difficultés avant. Et bon, il s'est suicidé sous ces circonstances. En fait, j'ai eu un ami personnel, qui est mathématicien aussi, qui s'appelait Terry Merkel, qui s'est également suicidé. Je connais un certain nombre de mathématiciens, puisque je parle ici surtout de mathématiciens, puisque c'est le milieu que j'ai le mieux connu, qui sont devenus fous. Je ne pense pas que ce soit une chose vraiment spéciale aux mathématiciens. Et je pense que le genre, disons, d'atmosphère qui prévaut dans le monde scientifique, qu'il soit mathématique ou non, une sorte d'atmosphère à l'air extrêmement rarifié, et la pression qui s'exerce sur les chercheurs est beaucoup sur ces cas malheureux pour l'évolution de tels cas. Alors, ceci concernant le plaisir que nous prenons à faire de la recherche scientifique, je sais qu'il peut y avoir plaisir, mais je suis arrivé à la conclusion que le plaisir des uns, le plaisir des gens haut placés, le plaisir des brillants, se fait aux dépens d'une répression véritable vis-à-vis du scientifique moyen. Il y a un autre aspect de ce problème qui dépasse les limites, disons, de la communauté scientifique, entre guillemets, de l'ensemble des scientifiques, à savoir que ces hautes voltiges de la pensée humaine, elles se font aux dépens de l'ensemble de la population qui est dépossédée de tout savoir, en ce sens que dans l'idéologie dominante de notre société, le seul savoir véritable, c'est le savoir scientifique, c'est la connaissance scientifique. La science, et la connaissance scientifique, c'est l'apanage sur la planète, peut-être de quelques millions de personnes. Tous ceux, donc peut-être une personne sur 1000, tous les autres, eh bien, ils sont censés ne pas connaître. Et en fait, quand on parle avec eux, ils ont bien l'impression de ne pas connaître. Ceux qui connaissent, ce sont ceux qui sont là-haut, vous autres scientifiques, les mathématiciens, c'est très calé, etc. Donc, je pense qu'il y a pas mal de commentaires critiques à faire sur ce plaisir que nous retirons de la science et sur ces à côté. Je pense en fait que ce plaisir est une sorte de justification idéologique d'un certain cours que la société humaine est en train de prendre. Et à ce titre, je pense que même la science la plus désintéressée, qui se fait dans le contexte actuel, et même la plus éloignée de l'application pratique, je pense, a un impact extrêmement négatif. Et c'est pour cette raison que, moi personnellement, je m'abstiens, dans toute la mesure du possible, de participer à ce genre d'activité actuellement. Je pourrais préciser que la raison pour laquelle au début j'ai interrompu mon activité de recherche, c'était parce que je me rendais compte qu'il y avait des choses, des problèmes si urgents à résoudre concernant la crise de survie que ça me semblait de la folie de gaspiller des forces à faire de la recherche scientifique pure. Au moment où j'avais pris cette décision, je pensais consacrer plusieurs années à faire de la recherche, à apprendre, disons, des certaines connaissances de base en biologie, avec l'idée d'appliquer, ensuite de développer des techniques mathématiques, des méthodes mathématiques pour traiter des problèmes de biologie. C'est une chose absolument fascinante pour moi, et néanmoins, pratiquement du jour au lendemain, à partir du moment où, en fait, un certain groupe d'amis et moi, on a démarré un groupe qui s'appelle Survivre, pour précisément nous occuper des questions de la survie. Mais à partir de ce moment, du jour au lendemain, l'intérêt pour une recherche scientifique désintéressée s'est complètement évanoui pour moi, et je n'ai jamais eu une minute de regret depuis. Alors, il y a, bien entendu, il reste la deuxième motivation, c'est que la science, l'activité scientifique nous permet d'avoir un salaire, nous permet de vivre, qui est en fait, je crois, la motivation principale pour, sinon unique, pour la plupart des scientifiques, d'après les conversations que j'ai pu avoir avec un grand nombre d'entre eux. Eh bien, il y aura aussi pas mal de choses à dire à ce sujet. En particulier, que pour en tout cas, pour les jeunes scientifiques ou futurs scientifiques, ceux qui actuellement s'engagent dans la carrière scientifique, ceux qui font des études de sciences, en s'imaginant qu'ils vont trouver un métier tout près qui leur procurera la sécurité, eh bien, je crois qu'il est généralement assez bien connu qu'il y a là une grande illusion. C'est qu'à force de produire des scientifiques, des gens hautement qualifiés, on en a produit vraiment de trop depuis le grand boom dans la production de jeunes savants depuis le Spoutnik il y a une quinzaine d'années, et qu'il y a de plus en plus de chômage dans les carrières scientifiques. C'est un problème qui se pose de façon de plus en plus aiguë, un nombre croissant de jeunes surtout, de jeunes scientifiques. En fait, aux États-Unis, on doit fabriquer chaque année quelque chose comme 1000 ou 1500 thèses rien qu'en mathématiques. Et il y a à peu près, le nombre de débouchés est à peu près de l'ordre d'un tiers de ça. D'autre part, il n'en reste pas moins, lorsque la science nous permet d'avoir un salaire et de subvenir à nos besoins, c'est que les liens entre notre travail et la satisfaction de nos besoins sont pratiquement tranchés, ce sont des liens extrêmement abstraits, c'est le lien pratiquement formé par le salaire, mais nos besoins ne sont pas directement reliés à l'activité que nous exerçons. Et en fait, et c'est ça la chose remarquable, quand on pose la question « à quoi sert socialement la science ?», eh bien, pratiquement personne n'est capable de répondre. Les activités scientifiques que nous faisons, elles ne servent à remplir directement aucun de nos besoins, aucun des besoins de nos proches, de gens que nous puissions connaître. Il y a alignation parfaite entre nous-mêmes et notre travail. Et je pense que là, ce n'est pas un phénomène qui soit propre à l'activité scientifique. Je crois que c'est une situation propre à pratiquement toutes les activités professionnelles, presque toutes, à l'intérieur de la civilisation industrielle. C'est un des très grands vices de cette civilisation industrielle. Eh bien, en ce qui concerne les mathématiques plus particulièrement, depuis quelques mois, j'essaie vraiment de découvrir une façon dont la recherche mathématique, celle qui s'est faite depuis quelques siècles, je ne parle même pas nécessairement de la recherche mathématique la plus récente, celle dans laquelle j'ai été encore impliqué moi-même à date assez récente, Eh bien, à quoi est-ce qu'elle peut bien servir du point de vue de satisfaction de nos besoins? Eh bien, j'en ai parlé avec toutes sortes de mathématiciens depuis 3 mois. Personne n'a été capable de donner une réponse. Donc, devant des auditoires comme celui-ci ou des groupes de collègues plus petits, eh bien, personne ne le sait. En fait, je ne dirais pas qu'aucune de ces connaissances ne soit capable, dans une situation ou une autre, de s'appliquer pour nous rendre plus heureux, pour nous permettre un meilleur épanouissement, pour satisfaire à certains besoins, à certains désirs véritables. Mais jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas trouvé. Si je l'avais trouvé, j'aurais été beaucoup plus heureux, beaucoup plus content à certains égards, du moins jusqu'à une date récente. Parce que, après tout, je suis mathématicien moi-même, ça m'aurait fait plaisir de savoir que mes connaissances mathématiques pouvaient servir à quelque chose de socialement positif. Or, depuis 2 ans que j'essaie de comprendre un petit peu le cours que la société est en train de prendre, les possibilités que nous avons pour agir favorablement sur ce cours, en particulier les possibilités que nous avons pour permettre la survie de l'espèce humaine et pour permettre aussi une évolution de la vie qui soit telle que la vie soit digne d'être vécue, que la survie en vaille la peine, eh bien, mes connaissances de scientifique ne m'ont pas servi une seule fois. La seule chose à quoi ma formation de mathématicien m'est servie, ce n'est pas tellement ma formation de mathématicien, mais mon nom de mathématicien, c'était que, puisque j'étais un mathématicien connu, j'avais la possibilité de me faire inviter par pas mal d'universités, un peu partout, ce qui m'a donné la possibilité de parler avec beaucoup de collègues, d'étudiants, de gens un peu partout. En particulier, pour la première fois, ça s'est produit au printemps dernier, où j'ai fait un tour du Canada ou des États-Unis. En l'espace de 3 semaines, j'ai visité une 20aine de campus. Et effectivement, de ces contacts, j'ai retiré un bénéfice énorme. Mes idées, ma vision des choses a énormément évolué depuis ce moment-là. Mais en fait, c'est donc de façon tout à fait incidente que ma qualité de mathématicien m'a servi. En tout cas, mes connaissances de mathématicien n'y étaient vraiment pour rien. Je pourrais ajouter que depuis le printemps dernier, j'ai pris l'habitude, lorsque je recevais une invitation pour faire des exposés mathématiques, quelque part, que lorsque je les acceptais, c'était en explicitant que ça m'intéressait dans la mesure où un tel exposé me donnerait l'occasion de débattre de problèmes plus importants, tels que celui dont on est en train de parler maintenant, ici. Et qu'en général, ça me donnait aussi l'occasion de parler avec des gens non mathématiciens, avec des scientifiques d'autres domaines de la science et également avec des non-scientifiques. Et en fait, donc, je demandais à mes collègues mathématiciens qu'au moins un du département s'occupe de l'organisation de tels débats. Alors, ça a été le cas, par exemple, pour toutes les conférences que j'ai faites en Canada et aux États-Unis. En fait, il s'est trouvé que pas une seule fois jusqu'à maintenant, on a refusé cette proposition d'organiser des débats non techniques, non purement mathématiques, en marge de l'invitation mathématique au sens traditionnel. D'ailleurs, depuis ce moment-là, j'ai également modifié un peu ma pratique en introduisant également des commentaires, disons, préliminaires, critiques, dans les exposés mathématiques eux-mêmes, pour qu'il n'y ait pas une coupure trop nette entre, d'une part, la partie mathématique de mon séjour et l'autre. Donc, non seulement en annonçant le débat public plus général qui aurait lieu par la suite, mais également, par exemple, en prenant mes distances vis-à-vis de la pratique même d'inviter des conférenciers étrangers pour accomplir un certain rituel, à savoir faire une conférence de haute volée sur un grand sujet ésotérique, devant un public, disons, de 50 ou 100 personnes, dont peut-être 2 ou 3 peuvent péniblement y comprendre quelque chose, tandis que tous les autres se sentent dans une position véritablement humiliée, parce qu'effectivement, ils sentent une contrainte sociale posée sur eux pour y aller. La première fois que donc, j'ai posé la question clairement, c'était à Toulouse, il y a quelques mois, et j'ai senti effectivement une espèce de soulagement du fait que ces choses-là soient une fois dites. Et pour la première fois depuis que je faisais ce genre de conférence, eh bien, spontanément, sans que rien n'était entendu à l'avance, eh bien, après la conférence mathématique qui effectivement était très ésotérique et qui en elle-même était très pénible et pesante, et j'ai eu à m'excuser plusieurs fois au cours de la conférence, parce que vraiment c'était assez intolérable, eh bien, immédiatement après, s'est instaurée une discussion extrêmement intéressante, et bien précisément sur le thème, à quoi ça sert, d'une part, ce genre de mathématiques, et d'autre part, ce genre de rituel de faire ces conférences devant des gens qui ne s'y intéressent rigoureusement pas. Bon, alors, mon intention n'était pas de faire ici une sorte de théorie de l'antiscience. Je vois bien que j'ai à peine commencé à effleurer quelques-unes des questions qui sont liées, quelques-uns des problèmes qui sont liés à la question « Allons-nous continuer la recherche scientifique ?» Même parmi ceux qui étaient indiqués sous cette espèce de tract dont j'ai vu une copie, en un sens, même de ceux-ci, même celles qui étaient indiquées, on les a à peine effleurées ici. Par exemple, sur les possibilités éventuelles, sur les possibilités de développer une pratique scientifique entièrement différente de la pratique scientifique actuelle, également une critique plus détaillée, disons, de la pratique scientifique actuelle. J'ai parlé plutôt en termes assez concrets de mon expérience personnelle, de ce qui m'a été transmis directement par d'autres. Donc, j'ai parlé une demi-heure, c'est peut-être suffisant et peut-être qu'il sera préférable que d'autres points soient traités peut-être un peu plus en profondeur au cours d'une discussion générale. Je voulais simplement indiquer, avant de terminer mon petit laïus introductif, que j'ai ramené ici quelques exemplaires d'un journal que nous éditons qui s'appelle « Survivre et vivre ». En fait, il s'agit du groupe dont j'ai parlé au début, mais qui a changé son nom depuis quelques mois, au lieu de « Survivre », d'après un certain changement d'optique assez important, assez caractéristique, il est devenu Survivre et Vivre, parce qu'au début, nous avons démarré sous la hantise, disons, d'une possible fin du monde, où l'impératif essentiel pour nous, c'était l'impératif de la survie. Et depuis lors, par un cheminement parallèle chez beaucoup d'entre nous, et d'autres d'ailleurs hors du groupe, nous sommes parvenus à la conclusion que au début, nous étions, si on peut dire, overwhelmed, comment est-ce qu'on dit, complètement écrasés par la multiplicité des problèmes extrêmement enchevêtrés, de telle façon qu'il semblait impossible de toucher à aucun d'eux sans, en même temps, amener tous les autres. Et finalement, on se serait laissé aller à une sorte de désespoir, de pessimisme noir, si on n'avait pas fait le changement d'optique suivant. C'est que à l'intérieur, effectivement, du système de référence habituel où nous vivons, à l'intérieur d'un type de civilisation donnée, appelons-la civilisation occidentale ou civilisation industrielle, eh bien, il n'y a pas de solution possible. L'imbrication des problèmes économiques, politiques, idéologiques et scientifiques, si vous voulez, est telle que il n'y a pas d'issue possible. Même au début, nous pensions qu'avec des connaissances scientifiques suffisamment sophistiquées, en les mettant à la disposition de suffisamment de monde, on arriverait à mieux arriver à une solution des problèmes qui se posent. Nous sommes revenus de cette illusion. Nous pensons maintenant que la solution ne proviendra pas d'un supplément de connaissances scientifiques, d'un supplément de techniques, qu'elle proviendra d'un changement de civilisation. C'est ça le changement d'optique extrêmement important. Pour nous, la civilisation dominante, la civilisation industrielle, est condamnée à disparaître dans un temps relativement court, dans l'espèce de peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, une génération, deux générations, cet ordre de grandeur. Parce que les problèmes que pose actuellement cette civilisation sont des problèmes effectivement insolubles. Et nous voyons maintenant notre rôle dans la direction suivante, être nous-mêmes partie intégrante d'un processus de transformation des ferments de transformation d'un type de civilisation à un autre, que nous pouvons commencer à développer dès maintenant. Et dans ce sens, le problème de la survie pour nous a été, si on peut dire, dépassé et est devenu celui de le problème de la vie, c'est-à-dire transformer notre vie dans l'immédiat, et de telle façon qu'il s'agisse de modes de vie et de relations humaines qui soient dignes d'être vécues et qui, d'autre part, soient viables à longue échéance, qui puissent servir comme des points de départ pour l'établissement de civilisations au pluriel, post-industrielles, de cultures nouvelles. Alors, pour les personnes d'entre vous qui sont intéressées à les avoir, par la suite, ça se vend à 2 francs français pièce, donc 1 franc 50 suisse. J'en ai rapporté une cinquantaine d'exemplaires. Comme ça nous coûte de l'argent pour les produire, nous sommes bien obligés de les vendre. Alors, les personnes intéressées peuvent en prendre et mettront peut-être des sous là-dedans. Pour des abonnements, on peut écrire à, par exemple, à mon adresse, 211 Avenue Kennedy, 91 Massy. De toute façon, les conditions d'abonnement sont écrites sur le Fourbi.
Les questions, le débat, ça dépend comment on l'appelle.
Débat, oui.
Alors, je voudrais simplement rappeler un petit point technique. C'est traduit, pour le moment, tout est traduit en anglais, quand on parle français, vice-versa. Alors, pour que les traducteurs puissent entendre vos questions, il faut que, quand on vous a donné la parole, vous poussiez sur le petit bouton qui se trouve au pupitre. Une lampe rouge s'allume, vous pouvez parler. Alors, ceux qui n'ont pas de tels appareils doivent essayer d'en trouver un à proximité. C'est important pour que les gens qui ne comprennent pas la langue qui est parlée au moment même puissent vivre le débat. Bon, première question.
I would very much like to know what you would say makes life worth to live.
Yes, est-ce que je réponds en anglais ou en français? En français, bon. C'est ça. C'est ça. En fait, jusqu'à maintenant, l'activité. La vie que j'avais moi-même, je la considérais comme tout à fait digne d'être vécue. J'avais le sentiment d'un certain type d'épanouissement, pour moi personnellement, qui me satisfaisait. Maintenant, avec un certain recul, d'ailleurs, j'envisage ma vie passée dans un jour très différent, en ce sens que je me rends compte que cet épanouissement était en même temps une mutilation. Parce que, en un sens, il s'agit d'une activité extrêmement intense, mais dans une direction excessivement étroite, de telle façon que toutes les autres possibilités d'épanouissement de la personne n'étaient pas touchées. Et pour moi, il n'y a absolument pas de doute possible à ce sujet. Les genres d'activités que j'ai actuellement sont infiniment plus satisfaisants, infiniment plus enrichissants que celui que j'ai eu pendant 20 ou 25 ans dans mon passé, dans ma pratique de chercheur mathématique. Donc tout d'abord, un point de vue purement personnel de ce qui concerne ma vie à moi. Mais d'autre part, quand je parle d'une vie qui est digne d'être vécue, il ne s'agit pas seulement de ma vie à moi, il s'agit de la vie de tous. Et je me rends compte que l'épanouissement que j'ai pu avoir dans une direction très très limitée, elle se faisait aux dépens des possibilités d'épanouissement d'autres personnes. Par exemple, si certaines personnes se sont trouvées sous une pression psychologique si forte qu'ils en sont parfois venus au suicide, c'est bien à cause d'un consensus dominant qui faisait que la valeur de la personne était jugée d'après la virtuosité technique, par exemple, à démontrer des théorèmes. c'est-à-dire à effectuer certaines opérations excessivement spécialisées, alors que précisément tout le reste de la personne était complètement laissé à l'ombre. Et c'est une chose que j'ai expérimenté beaucoup et beaucoup de fois, c'est que quand on parle d'une personne, une telle, je demande, bon, qui est-ce? On me répond, c'est un con, parce que, voulant dire par là, c'est ça, quand on est entre mathématiciens, que c'est un type qui soit démontre des théorèmes qui ne sont pas très intéressants, soit démontre des théorèmes qui sont faux, ou bien ne démontre pas de théorème du tout. Donc, là j'ai un peu défini négativement ce que j'entends par une vie qui soit digne d'être vécue. Je pense que pour tout le monde, il y a la possibilité d'épanouissement sans que nous soyons, sans que nous soyons jugés par les autres, par des critères aussi étroits, aussi étriqués. En fait, je pense que cette échelle de valeur est en effet effectivement directement mutilant sur une possibilité d'épanouissement. Enfin, c'est un des aspects, je ne prétends pas ici répondre à la question que vous avez soulevée, qui est très vaste, mais enfin, disons, dans l'optique où nous plaçons ici, c'est-à-dire partant de la pratique de scientifique, c'est ce que je vois de plus immédiat à répondre.
Do you have any opinions on the pattern of scientific research in the People's Republic of China? In the People's Republic of China.
Yes, I have some. Ah, bon, en français. Oui, bon, c'est ça. Oui, disons, jusqu'à une date assez récente, jusqu'à il y a environ 3 mois, j'ai été relativement fermé à toute information qui me venait de Chine, parce qu'elle s'enveloppait dans un jargon tel qu'on avait envie, a priori, de le mettre en doute. On n'avait pas envie de le prendre au sérieux. Le jargon, disons, d'un culte effréné de la personnalité de Mao Tse-tung, une sorte de hagiographie qui l'accompagnait, qui faisait que les publications, je les prenais en main assez souvent, mais elles me tombaient des mains, des découragements. C'est-à-dire que ça ne passait pas. Alors, il y a 3 mois, j'ai été en contact avec des nouveaux alchimistes qui m'ont fait comprendre la possibilité d'une pratique scientifique entièrement différente du type de pratique qui prévaut actuellement dans toutes les sciences qui sont professées à l'université, dans les instituts de recherche. Et à partir de ce moment-là, effectivement, j'ai attaché un intérêt renouvelé à ce qui se passe en Chine, et j'ai eu la motivation nécessaire pour dépasser, disons, les fioritures du style et pour essayer de voir le fond des choses. Et je me suis convaincu qu'il y a des choses extrêmement intéressantes qui se passent également en Chine, précisément en direction du développement d'une science nouvelle. En tout cas, la Chine est le seul pays dans lequel le mythe de l'expert soit même officiellement battu en brèche, dans lequel on dit aux gens: ne vous fiez pas aux experts, n'attendez pas que le gouvernement vous envoie des types compétents pour résoudre vos problèmes. Résolvez-les vous-même avec les moyens du bord, avec les moyens que vous trouvez sur place. C'est ça. Nous sommes tous, que nous soyons des professeurs d'université, des ouvriers ou des paysans, nous sommes tous capables d'initiatives créatrices, nous sommes tous capables d'inventer quelque chose. Alors, la façon la plus, je crois, la plus frappante dont ces, appelons les mots d'ordre, ou ce mouvement nouveau se soit matérialisé, c'est le développement de la médecine chinoise, tout particulièrement depuis la révolution culturelle chinoise. Alors, c'est un exemple où précisément la science sort des mains d'une certaine caste pour devenir la science de tous. Et ce n'est qu'en devenant la science de tous qu'elle peut devenir la science pour tous. En fait, pratiquement, n'importe qui, quel que soit son background culturel en Chine, peut devenir médecin. Il y a ce vaste mouvement des médecins aux pieds nus qui a mobilisé des nombres impressionnants, mais je suis mauvais en statistiques, je ne saurais pas dire combien, de gens qui parcourent les campagnes pour toutes sortes d'interventions médicales, disons, standards, qui, dans un contexte social comme le nôtre, ne seraient admise que moyennant des années et des années d'études médicales, alors que là-bas, après quelques mois de préparation, on peut exercer certaines activités médicales. Il y a tout particulièrement le développement sensationnel de l'acupuncture chinoise qui a permis dans des cas jusque maintenant tout à fait insoupçonnés de guérir certaines affections, on sait par exemple, ou d'être auxiliaire dans certaines techniques médicales. Alors à titre d'auxiliaire, on sait le rôle que joue actuellement l'acupuncture chinoise pour l'anesthésie. Mais également, il y a guérison par acupuncture de toutes sortes d'affections, y compris des affections aussi banales que les rhumes, mais aussi, par exemple, des affections très sérieuses, comme des descentes de matrice, à des états très, très avancés. J'ai eu la traduction récemment d'un article d'un journal chinois à ce sujet, qui nous éclaire bien sur les différences entre, disons, la pratique scientifique et en particulier médicale dans un pays comme la France ou la Suisse, enfin dans un pays occidental, et la pratique en Chine, où en fait une technique entièrement nouvelle de guérison d'une descente matrice très avancée a été trouvée par une jeune femme médecin qui avait très 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 peu de background, de très très peu d'études derrière elle, mais qui était fortement motivée pour guérir un cas précis. D'autre part, elle se trouvait dans un climat culturel où il n'était pas considéré comme inadmissible, comme impensable qu'une personne ayant peu de connaissances, n'ayant pas de diplôme pratiquement, puisse développer des techniques nouvelles. Bon, elle a fait des essais sur elle-même en faisant des piqûres sur ses vertèbres inférieures, puisqu'elle savait, d'après le peu de choses élémentaires qu'elle avait apprises, qu'il y avait des liens nerveux directs entre la matrice et ses vertèbres, et à force d'expérimentation sur elle-même, elle a fini par trouver un point qui lui a causé une réaction extrêmement forte, qui a fait remonter la matrice à l'intérieur de son ventre. Et sur ce, ayant la conviction qu'elle avait trouvé le point correct, elle a appliqué à la malade qu'elle avait en vue, et cette malade a été guérie. Et depuis lors, une cinquantaine d'autres cas, au moment où j'ai lu ce journal, auraient été traités, et avec 45 cas de guérison. Alors, on peut voir la différence fondamentale entre cette sorte de pratique et de découverte scientifique et celle qui prévalent dans les pays occidentaux. Tout d'abord, le malade n'est plus un objet entre les médecins du médecin. Ce n'est plus le médecin qui est le sujet qui sait et qui applique son savoir sur l'objet malade. Ici, dans l'investigation scientifique, eh bien, le médecin est en même temps l'objet de l'expérimentation, ce qui en même temps permet de surmonter ces relations